Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
Cube Radio.
Je rejoins mes collègues Julia Pagé et Rémi Villemur qui sont avec moi. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Est-ce qu'il y en avait un de vous deux qui avait un gros déménagement à faire vendredi dernier? Est-ce que ça s'est bien passé ou c'était jour de congé de votre côté?
Moi, je suis jamais vraiment en congé. Pas de déménagement, pas de congé.
Bon, ni l'un ni l'autre. Écoutez, il y avait quelque chose quand même qui s'est passé le vendredi dernier sur lequel on n'a pas pu revenir à cause justement là de la fête du déménagement. Revenons-y aujourd'hui. Décision du CRTC qui a été rendue et rapidement dénoncée vendredi dernier, entre autres dans la presse, une lettre ouverte, l'ex-ombudsman de Radio-Canada, Guy Gendron, 13 autres signataires qui s'indignent entre autres de sa décision. Parce que le CRTC, là, le Conseil de la radiodiffusion, pardonnez-moi, et des télécommunications canadiennes, blâme le diffuseur public, blâme Radio-Canada pour l'utilisation du mot en haine par un chroniqueur en onde et exige des excuses de la part de Radio-Canada. Et je replace les faits rapidement. C'est passé le 17 août 2020. C'est le chroniqueur Simon Jaudoin qui a cité à 4 reprises le titre du livre de Pierre Vallière, donc « Nègre blanc d'Amérique », après le lancement d'une pétition qui exigeait le renvoi de la professeure de l'Université de Concordia qui avait cité l'ouvrage en classe. Donc, on a parlé de tout ça en chronique. Là, je viens de le dire en onde moi-même. On n'est pas régi par le CRTC, mais je vous avoue, je nomme un titre de livre puis ça vient de m'angoisser de le dire en onde comme ça. Êtes-vous d'accord avec la décision là, du CRTC?
Vas-y, Julien.
Réponse très courte, non. Je suis pas d'accord avec la décision du CRTC. Mais est-ce que ça se peut que ce soit peut-être un peu plus compliqué qu'on le présente? Évidemment, oui. Bon, tu le dis, Alexandre, juste de prononcer le mot, on sent un malaise. Puis, c'est pas nécessairement un malaise social de dire « est-ce que je vais perdre ma job le lendemain? » Mais c'est un mot qui, nécessairement, veut dire quelque chose qui a une très, très forte connotation. Et je pense que ça doit rester comme ça. Évidemment, au niveau de la liberté d'expression, on est pas mal tous d'accord là pour dire que et les journalistes et les professeurs devraient pouvoir prononcer le titre d'une œuvre. Sinon, c'est complètement ridicule. Moi, je comprends même pas que le débat se soit rendu là. Par contre, ça doit pas nous empêcher d'être sensibles à ce que ce mot-là provoque. Il y a aucun contexte, même dans le titre d'une œuvre, où le mot en haine est neutre. Donc, il faut garder ça en tête. Après, il faut continuer à avoir ce débat en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de l'avoir entre blancs, pas juste ici ce matin, là, mais tous les chroniqueurs des journaux qui en ont parlé étaient blancs. Je pense qu'il faut ouvrir la conversation. Puis aussi, pourquoi pas lire le livre de Vallière, qui pourrait nous apprendre plusieurs choses. Il pourrait nous dire, entre autres, que le risque reste très grand de voir le nationalisme des francophones, entre guillemets, pur laine, se pervertir en une forme dégénérative, xénophobe ou raciste du sentiment populaire. Il y a plein de choses à retenir de cette œuvre-là. Je pense qu'il serait peut-être le temps de dépasser le simple titre.
Ouais, est-ce que la décision pourrait être justifiable, là, je te mets dans cette position-là, Rémi. Est-ce que ça peut être justifiable du fait que ça a été cité à plus d'une reprise, 4 reprises pour être exact, ou même là, on pourrait le dire autant de fois qu'on veut ce mot-là, et la décision là du CRTC reste invalide à ton opinion?
Je ferais juste préciser que le CRTC, dans son jugement, a cité le titre du livre 15 fois. Donc, c'est 15 à 4 pour Radio-Canada contre le CRTC.
C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, puis les Radio-Canada le redisent dans leur article après ça. Quand ils en parlent, moi, je le dis à la radio, puis juste de reparler de cette nouvelle-là va nous amener à lire le titre du livre de Vallière, là.
Absolument, absolument. Un livre, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est un livre qui a été écrit à la fin des années 60, en prison, à New York, alors que Pierre Vallière sympathisait à l'intérieur des murs de la prison avec des membres des Black Panthers, avec qui il discutait de façon solidaire et avec qui il réalisait que la situation des Noirs américains était comparable en certains points à celle des Canadiens français à l'époque. Dans certains points, mais attendez une minute, c'est un livre qui était super bien documenté, notamment à partir des travaux de la commission Laurando-Dunton. Les travaux de la commission déterminaient que les Canadiens français étaient moins éduqués et plus pauvres que les Noirs américains. Et c'est pas une farce, là, c'est vrai. Donc les gens qui s'offusquent d'entendre le titre du livre pourraient le lire, d'une part, et pourraient se renseigner sur l'histoire du Québec, comprendre qu'à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est le principe d'un livre qui a été publié il y a 60 ans, la situation des Canadiens français était comparable en certains points à celle des Noirs américains. C'est pour ça que Vallière utilisait le mot nègre pour constituer le titre de son livre. Mmh. Mais ça, je me demande si les gens qui se plaignent l'ont lu, le livre. C'est vraiment une question qu'on devrait poser plus souvent, là.
Ouais.
Mais moi, je me plains quand même de ça, là, quand même, je dois le dire. Je trouve que c'est pas. Je pense que l'usage du mot en N pour le titre de Vallière est pas très bien utilisé. Moi, je suis offensée comme une bonne woke. Je suis légèrement offensée. Il y a plein de choses vraiment intéressantes dans ce livre-là. Il faut le lire. C'est un témoin, juste à titre de témoin historique, super intéressant. Il fait pas seulement des parallèles entre la lutte des Noirs américains et la lutte des Québécois. Il dit, n'ont-ils pas, tout comme les Noirs américains, été importés pour servir de main-d'œuvre à bon marché dans le Nouveau Monde, ce qui les différencie, deux points, uniquement la couleur de la peau et le continent d'origine. Ça, évidemment que ça ne tient pas dans l'histoire. Mmh. Les Québécois ont jamais été vendus comme du bétail, tués massivement, violés. Il n'y a pas plus de Québécois interpellés par la police, etc., etc. Il y a quelques choses un peu insensibles dans ce livre, mais je suis d'accord avec Rémi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à en retenir.
Ouais. Par contre, je vais te relancer, Julia, là-dessus. Je peux comprendre que certaines personnes, dont toi, le soient offensées de l'utilisation qu'on en fait dans ce livre-là, qui est écrit par une personne blanche, comme tu le dis, puis après ça, que ça a été repris en chronique par que des gens qui sont pas issus de cette minorité culturelle et ethnique là. Mais j'en reviens, par exemple, je prends un autre exemple qui est cité entre autres par notre collègue chroniqueuse Sophie Durocher dans le journal ce matin, qui parle de la biographie de Norman Brathwaite, qui utilise le mot en N, qui est sa biographie de lui, et en reprenant qui est lui-même un artiste noir, est un clin d'œil au livre de Danny Laferrière, qui est un écrivain noir. Et ce livre-là, la biographie, est écrite par Isabelle Massé, une journaliste noire. Est-ce que dans ce contexte-là, d'utiliser le mot en haine dans le titre de son livre, de sa biographie, ça a été écrit il y a 10 ans, est-ce que ça a pas fait de tollé il y a 10 ans? Est-ce que c'est plus justifiable parce que tous les acteurs qui tournent autour de ce livre-là sont eux-mêmes noirs, Julia?
Bien sûr que c'est plus justifiable. Ce qui fonctionne pas dans le livre de Vallière, c'est le mot en N utilisé pour décrire les Québécois, ce qui est nettement plus insensible que, ben, en fait, ce que Norman Brathwaite fait, c'est pas insensible. Le mot est quand même dur, le mot a quand même une connotation importante, mais il est tout à fait dans la catégorie de la population qui est en droit de se l'approprier. Puis c'est plutôt même réjouissant de faire référence à Danny Laferrière. Puis il y a plusieurs autres auteurs, Frantz Fanon, par exemple. Il y a beaucoup des auteurs décoloniaux qui ont utilisé le mot en haine, mais qui l'ont utilisé de façon académique, de façon à développer leur théorie. Puis Norman Brathwaite a tout à fait le droit de l'utiliser. C'est un mot qui lui appartient. Mmh. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un mot qui n'appartient pas à M. Vallière, puis c'est un mot qui nous appartient pas à nous, les Blancs.
Ouais.
Donc, quand on l'utilise, et on a le droit de l'utiliser dans certains contextes, j'en suis convaincue,
okay,
il faut toujours se poser des questions.
Bon, ça c'est la bonne, mais c'était ma prochaine question, parce qu'à ce moment-là, si lui, ça lui appartient, est-ce qu'après ça, juste de le citer, de posséder le livre, d'en parler dans un cercle de lecture, de le présenter en classe, je veux pas dire que la biographie de Norman Brathwaite devrait être présentée en classe, c'est pas ce que je dis, mais dans le contexte, après ça, est-ce qu'on peut le reprendre? Est-ce que, moi, c'est vraiment le centre de la question qui revient sur la CRTC. D'ailleurs, là, il y a pas seulement Guy Gendron et les autres signataires qui s'en indignent. Ce matin, il y a une lettre ouverte de Martin Champoux, qui est le porte-parole du Bloc québécois en matière de patrimoine, le député de Drummond, qui lui aussi interpelle là, Pablo Rodriguez, le ministre du patrimoine canadien, sur cette décision du CRTC, en disant que ça devrait être la première préoccupation du CRTC de garder la liberté d'expression au cœur de toutes ses analyses. Est-ce que, dans ton cas, Rémi, tu crois que le CRTC s'est complètement planté? Est-ce qu'il s'éloigne de sa mission en rendant des jugements comme ça?
Ben, le CRTC est lâche, tout simplement. Je veux dire, ils ont fait preuve de lâcheté complètement. Parce que moi, je crois pas, en fait, à la thèse selon laquelle le plaignant a véritablement été traumatisé en entendant ce mot-là. C'est le titre d'un livre. Je pense que la personne en question, que je ne nommerai pas, a voulu saboter le système et s'en est bien pris, a bien rempli ses formulaires, puis a profité de la lâcheté des fonctionnaires du CRTC, tout simplement. Puis l'usage du mot en question, là, c'est très arbitraire, soit dit en passant, hein, parce que depuis que c'est sorti cette controverse-là, j'ai vu très peu de gens issus des communautés afro-américaines au Québec dire que c'était une bonne décision. J'ai vu beaucoup plus de Noirs dire que ça n'avait pas de bon sens. Et dans le rap, par exemple, il y a plein de Blancs qui utilisent ce mot-là, et c'est toléré. Donc, est-ce que c'est un mot qui appartient seulement aux Noirs? noirs. Je ne sais même pas si les noirs sont d'accord avec ça, en vérité. Mmh. Je veux dire, donc c'est complètement arbitraire, cet enjeu-là.
Ouais, c'est sûr, c'est pas non plus à nous nécessairement là, d'en juger. Je pense qu'on est mal positionné effectivement là à nous trois pour avoir. On n'a pas cette réponse là. Faudrait justement élargir cette réflexion là avec des gens qui sont beaucoup plus concernés que nous. Mais disons qu'il y a quand même là, un débat important sur la liberté d'expression en jaser, de cacher des mots, de cacher des faits historiques, de cacher certaines choses sous le prétexte que certaines personnes sont offensées. J'ai un problème avec ça. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Mais il faut continuer la réflexion. Certainement, le fait d'en parler ce matin, le fait que ça déclenche là, même un tollé dans les médias, je pense que c'est un mal nécessaire. Quelque part, moi je pense que d'avoir ces discussions là c'est tellement important que il faut les avoir, puis c'est comme ça qu'on fera avancer le débat. Avant de vous quitter, il y a un autre sujet que je voulais là discuter avec vous, un article, une entrevue qui est passée un peu sous le radar, j'ai l'impression, parce que ça aurait pu déclencher là beaucoup plus de tollé que ça. Une entrevue que Justin Trudeau, le premier ministre, a donnée à Au Devoir, dans lequel il dit que peu importe, là, grosso modo, je paraphrase, il dit que peu importe le nombre de députés que fera élire François Legault à l'automne, c'est un peu une formalité là pour l'instant, sachons-le, là, les sondages le donnent comme extrême gagnant, mais ça pourrait toujours changer, là, je veux pas le couronner tout de suite, mais il dit que peu importe combien de députés le Québec ferait élire là, par la CAQ et prendrait là justement certaines revendications en main, mais il n'y a pas l'intention de plier à quoi que ce soit comme ça. Rémi, toi, comment t'as trouvé ça, cette entrevue-là?
Ben, c'est absolument révélateur, là. Parce que je pense que Justin Trudeau nous a véritablement fait un petit exposé 101 des raisons de faire l'indépendance. En gros, ce que dit Trudeau, c'est que, comme tu viens de le dire, peu importe la taille du gouvernement majoritaire de François Legault, Ottawa va tenir son bout. Et tenir son bout, ça veut dire faire à sa tête. Pourquoi? Parce qu'Ottawa sait que le Québec est en train de perdre de plus en plus de poids dans la Confédération. Donc, petit rappel historique, là, en 1867, le Québec représentait le tiers de la population du Canada, donc c'était le tiers des circonscriptions. En 93, on baissait sous la barre des 25 %. Et normalement, si les démographes se sont pas trompés, d'ici 20 ans, ça va être sous la barre des 20 %. Donc, l'impact que ça annonce, c'est moins de circonscriptions, moins de considération dans les politiques fédérales pour le Québec. Puis c'est pour ça que Justin Trudeau commence à regarder de haut le gouvernement québécois. Il y a de moins en moins de besoins du Québec pour gagner une élection. Puis ça semble évident dans le ton qu'il emploie pour parler de Legault. Il refuse pas de le qualifier de populiste. Hein, c'est quand même une première. Moi, j'ai jamais entendu ça depuis que je suis né.
Ouais.
Un premier ministre du Canada qui parle d'un membre du pouvoir comme d'un être populiste. Et il lui garantit une seule chose. Il lui dit, tu vas me retrouver sur ton chemin avec la Charte des droits et libertés, qui est enchâssée dans la Constitution de 82 que le Québec n'a jamais ratifiée, le tout dans l'intention de faire invalider la loi 21 et la loi 96, qui ont été démocratiquement adoptées à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une leçon de politique là, et de fédéralisme que Justin Trudeau sert à François Legault.
Julien, moi, je voulais te demander, est-ce que pour toi, tu trouves que ça délégitimise un peu peut-être la démocratie? Parce que quand on est élu avec un gouvernement majoritaire, encore plus avec un mandat très fort, les idées poussées par le parti représentent théoriquement là, donc la volonté d'une majorité d'électeurs, d'une majorité de Québécois, d'une majorité de citoyens. Est-ce que de dire que peu importe la majorité qui est faite, qui est élue, peu importe la volonté du peuple qui est traduite au scrutin populaire, ça changera rien. Est-ce que c'est pas d'invalider un peu une partie de l'exercice démocratique?
Ce que Legault dit, c'est que le fédéral pourrait mettre des bâtons dans les roues à ce qu'une majorité de Québécois considère comme étant légitime, mais c'est justement ça le rôle de la Charte des droits et libertés, c'est de protéger les minorités, pas les majorités. Puis il y a rien de scandaleux ou d'anormal à ce qu'elle fasse. Par contre, c'est sûr que le ton employé par Trudeau était un peu, un peu détestable. C'est rare d'ailleurs qu'il utilise ce genre de mots. Mais l'idée donc de la Charte des droits et libertés, c'est que si un populiste se fait élire, et là je parle pas de Legault évidemment, il va y avoir des garde-fous. Il pourra pas faire reculer certains droits fondamentaux canadiens. Là, l'enjeu, c'est qu'on parle d'immigration, on parle de langue. Premièrement, je pense pas que Trudeau soit complètement à l'encontre de la protection du français, sans qu'il soit un grand défendeur. C'est pas non plus la figure de proue du mouvement, mais quand même. Sauf que lui, sa crainte, du moins ce qu'il dit, c'est que si on ouvre la porte au Québec pour les enjeux de langue et d'immigration, on est obligé d'ouvrir la porte à toutes les autres provinces. Donc, le Québec agit pas seul dans la matière. Donc, ça va sûrement avoir beaucoup d'impact et ça va peut-être favoriser une polarisation d'autant plus grande. Après, un autre enjeu, c'est un enjeu électoraliste de la part de Trudeau, parce que ces derniers temps, dans la course à la chefferie des conservateurs, on entend un ton de plus en plus dur face à la loi 21.
Oui.
Donc, il semble avoir pas mal de mécontentement du côté des conservateurs à cet égard-là. Et donc, si Trudeau se positionne avec le Québec, ça laisse le champ libre aux conservateurs pour s'accaparer tout cet enjeu-là et donc tous les électeurs qui y sont associés. C'est donc très logique pour Trudeau d'avoir une posture un peu plus dure par rapport à la loi 96. Il y a toujours un peu de politique qui rentre là-dedans.
Ben oui, bien sûr. Surtout que par rapport à la loi 96, il y a circulé énormément de désinformation dans le Canada anglais. En général, ouais. Il y a peu de gens qui voient ça d'un œil favorable. Évidemment, on peut pas leur en vouloir nécessairement parce qu'ils vivent pas les réalités qu'on vit ici en français au Québec. Mais tout de même, c'est vrai que ça peut être très électoraliste de se mettre comme ça, comme le grand défenseur de la vertu dans le chemin du Québec pour les élections futures à venir, hein, éventuellement, mm-hmm. parce qu'on se rappellera, c'est encore un gouvernement minoritaire qui est là au fédéral. Donc, ça peut survenir, là, même si les partis d'opposition ne semblent pas enclins à le faire. Ça pourrait survenir plus tôt que la date prévu. Quoi qu'il en soit aussi, Rémi, moi, ce que je retiens de cette discussion-là, c'est, tu l'as nommé, l'éléphant dans la pièce qui reste encore, cette bombe à retardement-là, la Constitution de 82 qui n'est pas ratifiée par le Québec, qui inclut des dispositions comme ça qui risquent de s'appliquer. J'ai l'impression qu'il y a des générations et des générations précédentes là de politiciens qui ont balayé tout ça sous le tapis parce que personne comprend, personne ne sait véritablement ce qui va arriver lorsqu'on voudra là embarquer dans un débat constitutionnel là-dessus. Je pense que ça ne plairait à personne. Quoi qu'en soit, là, on va continuer de suivre cette situation-là parce que les élections arrivent à l'automne. Il va falloir voir comment réagira le fédéral. Rémi, Julia, merci pour tout. On se reparle demain.
Merci.
À demain.